dernier terme lorsqu'il a reproché à Québec solidaire de soutenir le groupe considéré par le Canada comme une organisation terroriste. À part de ça, tu peux plus dire que traiter les adversaires de bibitte, de boniche, de boss d'Ébécos ou de boucher de Charlebourg, impossible de parler de quelqu'un qui induit la population en erreur.
Ah.
Non, tu peux plus dire ça. Tu peux plus dire non plus qu'il dit le contraire de la vérité. Tu sais, en fait, au lieu
de
mentir.
Tu peux pas dire de mentir.
C'est ça. Ouais. Oui, mais tu peux plus dire qu'il induit la population en erreur.
Ah.
Même si tu sais que c'est vrai,
ouais.
Tu peux plus le dire. Qu'il dit le contraire de la vérité, qu'il tord la vérité, qu'il cache des informations, qu'il bullshit ou qu'il couillonne les citoyens. Et toujours est-il que on a inventé une nouvelle appellation, ce Jolin Barreté.
Ah oui.
Oui, 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 parce qu'on dit que un mot qui a été inventé en son honneur par Pierre Arcan, un ancien libéral, en 2020, dans la foulée des ratés de sa réforme en immigration, qui avait forcé le gouvernement à retourner à sa planche à dessin pour une nouvelle mouture du projet. C'est depuis interdit de parler de réforme Jolin-Barreté.
Intéressant. Merci, Daniel.
Bye, bye.
On fait la pause. Le commentaire de Jonathan Trudeau, ça s'en vient.
C'est le temps des fêtes et des célébrations. Et Auto-Sif Duguay souhaite que vous profitiez de chaque moment pour vous amuser et pour créer de nouveaux souvenirs joyeux. Merci pour cette belle année de collaboration. Et ils ont hâte de continuer à faire affaire avec vous durant la prochaine année.
Salut Jonathan.
Salut Patrick.
OK, mise à jour économique à Ottawa, là, Chrystia Freeland, la ministre des Finances, qui va livrer la mise à jour économique. Tout ça, par contre, sur fond de fortes rumeurs de remaniement qui la concerne.
Écoute, je dois dire que je trouve ça assez surréel ce qui se passe en ce moment du côté d'Ottawa, parce que on a comme l'impression que la mise à jour économique de Chrystia Freeland va être en quelque sorte son testament politique comme ministre des Finances, mais un testament dont elle n'aura pas pu tenir la plume et décider des bénéficiaires. Parce que ce qu'on a compris au fil des récentes fuites dans les journaux, c'est que le bureau du premier ministre l'a pas mal forcé là pour les mesures, bon, la réduction, le retrait de la TPS pendant 2 mois, le chèque de 250 $. Donc là, Chrystia Freeland va déposer une mise à jour où elle va défoncer le déficit de 40 milliards. Ça a même été concédé par la principale intéressée au cours des derniers jours. Il va avoir là-dedans les mesures imposées par Justin Trudeau. Il va avoir les mesures pour répondre aux menaces de Donald Trump, renforcer la sécurité à la frontière. Probablement d'autres mesures qui seront plus ou moins inefficace pour essayer de relever le gouvernement. Mais bref, ça va avoir la signature de Chrystia Freeland. Et ce qui court, c'est que moins de 48 heures plus tard, on parle de mercredi, ben ça pourrait être fini. Il pourrait y avoir un remaniement ministériel dans lequel on amènerait celui qui est vu comme le sauveur, le messie du Parti libéral du Canada, Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et Banque de l'Angleterre, qu'on lui dirait: toi, tu es ministre non élu, on te donne le poste le plus prestigieux, celui de ministre des Finances. Écoute, c'est une rumeur qui est très, très, très persistante. Puis je dois dire que le Globe avait un très bon papier en fin de semaine qui évoquait les différentes possibilités et les tractations en coulisses. Et tu vois, tard hier soir, là, moi, on me disait, en ce moment, il y a 50 % de chances d'avoir un remaniement hâtif. Et s'il y a un remaniement hâtif, ça va vouloir dire que Mark Carney s'en vient. Mais semble-t-il que les décisions sont pas encore prises, que Mark Carney continue à se laisser désirer et tout ça.
Ça fait des années qu'il se fait tirer l'oreille, Mark Carney.
Quelqu'un me disait, Mark Carney qui s'en va en politique fédérale, c'est comme Sam Ahmad qui se présente à la ville de Québec. On va le croire quand on va le voir. J'ai trouvé ça très, très drôle comme parallèle, parce que c'est vrai, il laisse entendre que peut-être qu'il aimerait ça y aller, mais jamais il l'a dit clairement.
Il y a eu des offres, là, semble-t-il, solides. On lui a offert là, une circonscription à Toronto, j'oublie laquelle, là, mais c'est un château fort libéral. Puis il a fait, non, j'irai pas.
Quand Bill Morneau est parti, puis il a décidé de pas y aller. Donc bref, tu sais, si tu décides de faire ça, mettons que ça s'avère, là, t'as tout un casse-tête, parce que moi, on me dit, dans l'entourage du premier ministre, l'avenir de Mme Freeland pourrait être dans les relations avec les États-Unis, parce qu'elle avait bien fait ça dans le cadre du renouvellement de l'accord de libre-échange lors du premier mandat de Donald Trump. OK, mais là, si tu fais ça, est-ce que ça veut dire que ça passe par le ministère des Affaires étrangères? Parce que si c'est ça, t'as Mélanie Joly qui est en place. Donc, tu dois déplacer Mélanie Joly. Tu fais quoi avec Mélanie Joly?
Il n'y a pas un scénario, Jonathan, qui a circulé à Ottawa où on nommerait une ministre uniquement responsable des relations avec les États-Unis. Il me semble avoir vu ça.
J'ai entendu ça aussi. Mais en même temps, c'est que là, il y a, excuse-moi l'expression familière, mais il y a so much de personnes que tu peux nommer responsables des relations avec les États-Unis. Là, parce que là, tu aurais Chrystia Freeland, mais tu as la ministre des Affaires étrangères qui a un certain rôle à jouer. Tu as le ministre Dominique Leblanc parce que l'enjeu de la sécurité publique est primordial. Puis on dit que Mark Carney, la raison pour laquelle il serait le mieux placé pour être aux finances, ben ce serait pour faire face au ressac que les tarifs douaniers des États-Unis pourraient amener. Donc, écoute, on verra, mais il y a une chose que je retiens quand j'essaie de d'un peu vulgariser, d'expliquer la politique pour les gens qui suivent ça de moins près. Je trouve qu'aujourd'hui, pour Chrystia Freeland, c'est particulièrement humiliant.
Ben oui.
Ce qu'on lui demande de faire. Écoute, tous les projecteurs vont être braqués sur elle, doit faire une mise à jour économique très impopulaire qui va démontrer à quel point on n'arrête pas de creuser le fossé. Et pendant ce temps-là, ce que tous les médias disent, c'est que ça se peut que tu sois dégommé d'ici une coupe d'heure parce que il y a quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider à nous sortir du marasme qui peut-être va lever la main. Je la trouve très, très, très résiliente, d'autant plus que, au-delà de ses ambitions, c'est quand même une joueuse d'équipe, Chrystia Freeland. Toujours été là pour le premier ministre.
OK, parlons maintenant, revenons en politique provinciale. Tu veux revenir, Jonathan, là, sur l'entrevue du premier ministre accordée à notre émission vendredi dernier et aussi sur un rappel à l'ordre qui a été lancé à Santé-Québec.
Oui, parce que les deux sont liés, en fait. Si je commence par l'entrevue, on a vu un premier ministre qui était heureux hein, de son annonce historique. On a l'impression que sur chacun des sujets que tu aurais pu amener, le premier ministre aurait été capable de ramener ça à l'entente de Terre-Neuve, Churchill Falls. Écoute, avec raison, on l'a dit, là, puis ça a été dit, redit, écrit. C'est tout un coup de maître qui a été fait par le premier ministre. Ceci étant dit, de façon générale, dans l'entrevue, je l'ai déjà trouvé plus convaincant. Le premier ministre. Mais en même temps, on peut pas lui reprocher d'être fatigué. Là, il y avait eu le voyage éclair à Paris, une grosse semaine, l'annonce à Terre-Neuve. Il revient de Terre-Neuve le soir. Il était avec Patrick Lagacé à 7h20 le matin. Je l'ai déjà trouvé plus convaincant, mais surtout dans le volet santé, je l'ai trouvé non seulement pas convaincant, mais j'étais un peu déçu de ses propos. J'ai trouvé que ses propos manquaient d'empathie, particulièrement lorsque tu as parlé des effets de la coupe du 1,5 milliard et que tu as parlé des restrictions pour le chèque emploi-service qui favorise le soutien à domicile. Tu as parlé d'un cas en particulier rapporté dans la Gazette de Janine Saint-Jacques. Je veux qu'on écoute un court extrait de la fin d'une de tes questions et de la réponse du premier ministre.
Le chèque emploi-service pour avoir du monde qui vient à la maison pour aider son mari, là, qui s'appelle Alan Friesen, il y a de la démence.
Ah, ouais.
Vous lui dites quoi à Mme Saint-Jacques?
Ben, écoutez, on a augmenté les services à domicile. Faudrait les augmenter encore plus. Mais à un moment donné, la capacité de payer des Québécois n'est pas illimitée.
Et j'ai trouvé que ça manquait d'empathie. J'ai trouvé que c'était froid. J'ai trouvé que c'était une réponse qui était comptable. C'est une réponse très, très, très comptable. Puis tu sais, tu lui as donné plusieurs opportunités en disant « Oui, mais là, je vous parle pas de gestionnaire, je vous parle des effets sur les gens. Alors, mais là, si on vous a dit d'embaucher 10 infirmières, puis vous en avez embauché 15, ben là, à un moment donné, il faut peut-être en couper 5. Ben non, mais s'ils en ont embauché 15, c'est peut-être parce qu'il y avait un besoin criant d'en embaucher 15. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'humanité et surtout, que Radio-Canada nous a appris, le janvier au deuxième volet, samedi soir, que le sous-ministre à la Santé, Daniel Paré, avait écrit à Santé-Québec le 6 décembre, donc ça faisait déjà quoi, 8 jours à peu près, quand tu lui as parlé, pour leur dire, là, dans le cadre du chèque emploi-service, du maintien à domicile, vous allez trop loin. Malgré le contexte budgétaire, essentiellement, bon, faut pas toucher aux soins à domicile pour les gens les plus vulnérables, donc, François Legault aurait pu te citer ça, premièrement. Aurait pu dire, écoutez, M. Lagacé.
On les a rappelés à l'ordre.
Rigueur budgétaire, mais moi, le message qu'on a envoyé puis que j'envoie, c'est que les soins qui touchent aux personnes les plus vulnérables, les soins les plus urgents, on ne doit pas toucher à ça. Il y a moyen de respecter un cadre budgétaire sans aller toucher à ce qui fait le plus mal. Clairement, le premier, c'était pas au courant de l'existence de cette lettre-là. Ça, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est que je ne sais pas si, comme moi, t'as eu cette impression-là, mais c'est assez particulier de voir une lettre couler dans les médias qui s'adresse à Santé-Québec. Alors, écoute, ça fait 2 semaines que Santé-Québec est en opération. Et là, déjà, t'as une preuve du gouvernement qui est supposé de laisser la société d'État totalement indépendante faire son œuvre, qui, à la première occasion, les rappelle à l'ordre.
Il y a plusieurs couches d'absurdité là-dedans, OK? Je l'ai évoqué tantôt, Jonathan, là, dans le tour d'horizon de l'actualité. D'abord, le sous-ministre de la Santé qui envoie une lettre à la PDG pour lui dire « Vous allez trop loin », c'est ça que ça veut dire, dans les coupures aux soins à domicile, ça, c'est une chose. Deuxièmement, ils s'entêtent tous à nous dire, M. Dubé en tête, que c'est pas juste une autre structure. Puis ce sera pas un bouclier pour protéger le ministère de la Santé, ça, Santé Québec. C'est quoi? C'est quoi si c'est pas ça, dans ce qu'on voit? T'as le fonctionnaire payé 300 000 qui écrit à la fonctionnaire payé 600 000 pour lui dire « Hey, coupez pas trop dans le service à domicile. » Avant, Paris aurait écrit au CIS et au CIUS pour dire la même affaire. Là, il passe par un intermédiaire qui s'appelle Santé Québec. Je trouve ça vraiment fort à teneur en absurdité.
Quelque chose à dire, quelques éléments à dire là-dessus. Premièrement, on me dit que le fait que Santé Québec soit davantage indépendant, mais soit indépendant, va faire en sorte que justement dans les interventions qu'ils vont faire sur le terrain, ils vont avoir une plus grande latitude, puis que ça va être plus efficace que si c'était le ministère qui le faisait. Mmh. Première chose. Deuxième chose, pour ce qui est du cas particulier du chèque emploi service, moi, on me garantit que c'était pas une demande de Santé Québec, là. Eux ont donné des objectifs de maintien des budgets. Ils n'ont jamais demandé à qui que ce soit dans le réseau de couper ça. Donc, la façon que c'est perçu, j'ai parlé avec plusieurs intervenants hier, Patrick, c'est que c'est un peu le symbole, une manifestation de la résistance que l'entrée en matière de Santé Québec amène. Résistance qui se sent à tous les niveaux. Les gestionnaires du réseau, les hauts fonctionnaires. On me parle même des cabinets ministériels, hein. Il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on est convaincu que des cabinets comme celui de Lionel Carman puis de Sonia Bélanger, qui déjà avaient un pouvoir qui était plus limité par rapport à Christian Dubé, vont leur pouvoir encore plus réduire comme peau de chagrin? Ça se peut-tu qu'il y a des gens qui soient pas à l'aise avec ça? Sauf que j'ai senti que il y avait beaucoup de détermination du côté de Santé Québec. De dire, peut-être qu'ils vont vouloir se mettre le nez dans nos affaires, mais nous, on a un mandat, on est indépendant puis on va le réaliser.
Tu sais, quand tu dis, y a-tu de la résistance? Est-ce que c'est les fonctionnaires gestionnaires dans les CIS et les CIUS qui disent, bon, mais regardez, on va couper, ça va faire mal, puis vous allez avoir l'air fou dans les médias. C'est sûr que la structure...
Mais ça ressemble à ça.
La structure coupe jamais dans la structure. À vous demander de couper, ben on va couper là où ça fait mal. Parce que si tu coupes dans les gestionnaires, ça coupe, ça paraîtra pas. Ça, c'est la première affaire. Puis l'autre affaire, ce que tu évoques là, ça me fait penser. Quand le ministère de l'Éducation, à une époque, faisait des coupures, qui faisait les coupures? C'est les commissions scolaires. Là, le ministère disait, « Hey, nous, on n'a jamais dit couper les orthopédagogues dans les écoles. C'est les commissions scolaires qui ont décidé de faire ça. » Fait que tu vois, personne n'est imputable, mais tu crées une autre structure, t'as encore moins de monde d'imputables. Mais c'est quoi, c'est drôle, on trouve toujours les moyens de couper les services qui sont utiles pour les citoyens. Ça, on trouve plein de façons pour le faire.
C'est ça. Puis en haut, ils disent, on leur a pas dit de couper là, mais ils disent pas où couper. Mais on se doute qu'il y a peut-être des endroits où couper, dans la lourdeur, dans la bureaucratie, tout ça, mais c'est une manifestation incroyable de la lourdeur du mammouth. Là, regardez, là, Santé Québec qui dit, on veut que vous respectiez votre budget, à tort ou à raison, mais là, t'as le terrain qui dit, on va leur montrer que c'est fou leur affaire en coupant là où ça fait mal. Puis là, en plus, en haut, la structure qui, elle, veut pas perdre son pouvoir, le ministère de la Santé, dit, on va leur montrer que je suis encore capable de leur dire que c'est pas correct ce qu'ils font. Ultimement, en bout de ligne, t'as le patient qui a pas plus de service.
Tu sais qu'on y arrivera pas.
J'aime mieux être optimiste. Je veux pas. Si j'étais pessimiste, fataliste, je serais pas capable de faire ce job-là. Je serais bien trop déprimé. Donc, j'aime ça toujours donner la chance aux coureurs. Puis je pense que du côté de Santé Québec, c'était le message que j'avais hier. Les gens me disaient, donnez-nous la chance, là. On vient d'arriver. Là, on le voit qu'il y a de la résistance, mais on est déterminé. On verra ce que ça va donner. Mais je termine en disant qu'il y a une personne qui gravite autour de Santé Québec qui me disait, si le gouvernement voulait s'assurer que ça fonctionne pas, il ferait exactement ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est-à-dire, il y aurait de la résistance, même si on était dans un contexte idéal. Là, tu as la rigueur budgétaire, tu demandes de couper 1,5 milliard de dollars. On me dit qu'il y a des équipes à Santé Québec qui peuvent même pas être complétées en ce moment à cause du gel d'embauche. Donc, je sens que déjà, on voit des petites tensions. Ça va être intéressant.
Merci beaucoup, Jonathan.
Walmart est l'endroit numéro un pour économiser sur l'épicerie. Économisez 3 $ sur certaines variétés de détergents lessive La Parisienne de 125 brassées, maintenant seulement 9,97 $. C'est une économie de 23 %. Walmart, économisez plus, vivez mieux.
Bonjour, Grand Portage. Politique.
8h44, on va aller rejoindre à cette heure-ci Marie-Ève Proulx qui est là pour la chronique du lundi. Salut Marie-Ève.
Bonjour Kevin.
Aujourd'hui, tu souhaites faire un bilan de l'année 2024.